RFI 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Le journal avec vous Xavier Besson.
Bonjour Julien, Coquelroem, bonjour à tous. Cela enlève le piment de la sauce, nous serons au Gabon dans un instant. Réaction des Libre-Villois à l'annonce de la liste définitive des candidats pour l'élection du 12 avril prochain. Sans le syndicaliste Jean-Rémy Yama, mais tout de même avec de nouveaux visages, se réjouissent certains des Gabonais interrogés par notre correspondant. Dans ce journal également des témoignages de journalistes africains de VOA, le média américain à destination de l'étranger et donc du continent, média que le président Donald Trump souhaite voir fermer. La République démocratique du Congo, l'armée d'y prendre acte du dernier communiqué du M23, les rebelles annoncent se retirer de Walikale, cette localité du Nord Kivu, dont ils ont pris le contrôle ces derniers jours. Et puis direction Abidjan, quel est le secret du bonheur des Ivoiriens? La Côte d'Ivoire se classe première d'Afrique de l'Ouest dans un classement établi cette semaine par l'université d'Oxford, Royaume-Uni. C'était la principale information de la fin de la semaine au Gabon, à Libreville avant-hier, après la décision de la Cour constitutionnelle. On connaît désormais la liste définitive des candidats autorisés à participer à l'élection présidentielle le 12 avril prochain, ce scrutin qui doit mettre fin à la période de transition entamée avec le coup d'État qui a renversé Ali Bongo il y a un an et demi. Et que dit-on alors à Libreville de cette liste de 8 candidats dont ne fait pas partie le syndicaliste Jean-Rémy Yama? Reportage d'Yves Laurent Goma.
Dans un troquet du 5e arrondissement, Gauthier Achille Moussavou boit la bière avec ses frères. Il est marqué par l'émergence de nouvelles figures sur la liste des candidats.
Ce qui nous fait plaisir, c'est qu'il y a de nouveaux visages. Ces visages vont certainement changer la donne, contrairement aux anciens visages qui sont fatigués, qui n'ont rien prouvé durant 40 ans.
Beaucoup de Libre-Villois digèrent mal l'élimination du syndicaliste Jean-Rémy Yama, figure de proue de la société civile.
Nous regrettons pourquoi ils ont enlevé Jean-Rémy Yama. Ça enlève le piment dans la sauce. Sinon, avec lui, ça devait être plus piquant et plus chaud.
On devait laisser Jean-Rémy Yama combattre le système de rigueur.
Dans un bar en plein air du 3e arrondissement, ces Gabonais préférant l'anonymat mettent en cause la sincérité du processus électoral.
Un semblant de démocratie et une foutue élection.
Le ministère de l'Intérieur organise les élections et ce sont les gouverneurs qui sont les présidents de commission, ce qui n'est pas normal.
Christian Singa n'est pas de cet avis.
Et pour moi, c'est une très bonne élection qui va bien se passer. Nous avons voté le référendum et ça a été favorable. Donc pour moi, je me rends sûr que c'est des élections qui vont très bien se passer.
À moins d'un mois du scrutin, le climat politique est apaisé. Très peu de Gabonais redoutent des violences post-électorales comme les années antérieures. Yves Laurent Goma, Libreville, RFI.
C'est une des nombreuses décisions du président américain Donald Trump et c'est sans doute celle avec la suspension de l'aide extérieure qui risque d'avoir le plus de répercussions sur le continent africain. Donald Trump qui a décidé de couper le financement des médias américains à destination de l'étranger, notamment pour le continent. VOA, Voice of America, la voix de l'Amérique en français. Aujourd'hui, ce média est suivi par plus de 300 millions de personnes et l'incertitude plane sur ses journalistes. Certains ont déjà reçu leur notification de licenciement. D'autres sont placés en congé administratif. Ils ne peuvent pas parler à cause de clauses contenues dans leur contrat. Mais peu à peu, des premiers témoignages émergent. Christina Okello.
Nous savons que nous allons perdre nos emplois, mais nous devons rester silencieux. Témoignage amer d'un salarié de VOA placé en congé administratif, un statut qui l'empêche de s'exprimer publiquement. Un ancien cadre décrit des collègues désemparés, tournant en rond, sans savoir de quoi demain sera fait. Certains ont déjà reçu la notification des licenciements, d'autres explorent des recours légaux pour contester ces décisions. Car derrière ces suppressions de postes, des familles restées au pays, des prêts en cours, et l'angoisse d'un avenir incertain. Mais pour beaucoup, le dilemme reste le même, se taire et subir ou parler au risque de perdre définitivement leur emploi. VOA ne disparaîtra pas complètement, mais sa version future sera drastiquement réduite. La loi américaine interdit une fermeture totale sans l'aval du Congrès, mais selon plusieurs sources, le personnel et les opérations seront réduits au strict minimum. L'entreprise pourrait perdre jusqu'à 90% de ses effectifs, la rendant presque inopérante. Un vide dangereux avertit un salarié qui ne fera que renforcer ceux qui veulent contrôler l'information, selon lui.
Christina Okello, RFI, 8h35 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. L'armée dit prendre acte après le communiqué de l'AFC M23 hier. Les rebelles soutenus par le Rwanda qui se sont emparés de la localité de Walikale dans la province du Nord Kivu cette semaine et qui annoncent donc s'en retirer, disent-ils, pour favoriser un climat propice au dialogue. Le M23 qui, dans le même temps, continue d'occuper de larges pans des provinces du Nord et du Sud Kivu et notamment les capitales provinciales Goma et Bukavu. Goma, où l'on s'interroge au sujet du grand festival de musique Amani, normalement tous les ans au mois de novembre. Mais cette année, le contexte de guerre va peut-être venir bouleverser les choses. À Marseille, dans le sud de la France, Olivier Roger a rencontré le directeur du festival lors du forum Babel Musique.
En 10 ans d'existence, le festival Amani a relevé de nombreux défis. En 2021, l'éruption du volcan Nyiragongo à Goma avait entraîné un report de 10 mois. L'an dernier, la mairie avait failli gâcher la fête en interdisant la tenue du festival avant de faire machine arrière. Cette année, avec la guerre, Amani est pour l'instant suspendu. Guillaume Bissimois, directeur du festival.
S'il y a une stabilité au niveau du pays, il est important de remettre la culture au centre de tout et on regarde de près comment les choses évoluent. Mais entre-temps, les équipes ont réfléchi pour que tout de suite, s'il faut rebondir sur un événement assez important et qu'on puisse le mettre en place, quoi.
Tout dépendra donc de la situation sécuritaire à Goma, mais une autre option est sur la table, décentraliser le festival dans une autre ville du pays.
Est-ce que c'est une façon de dire que la culture doit survivre? Est-ce que ne pas l'organiser, ça serait aussi un message fort en disant que les contextes sont difficiles? Toutes sont des questions assez profondes, des réflexions sur lesquelles il faudrait qu'on s'y mette.
Pour l'heure, Guillaume Bissimois n'a pas la réponse et il ne prendra aucune décision seul. Les partenaires culturels et institutionnels du festival, ainsi que les artistes, auront, dit-il, leur mot à dire. Olivier Roger, Marseille, RFI.
Autre conflit en cours en ce moment, la guerre au Soudan, à Khartoum. L'armée nationale soudanaise continue de gagner du terrain face au FSR du général Emeti. Hier, cette armée a assuré avoir repris le contrôle, entre autres, de la banque centrale et du siège des services de renseignement, après avoir reconquis avant-hier le palais présidentiel. Alors que dans le même temps, des violents combats ont été signalés hier dans la région du Darfour, précisément dans la ville d'Almala, où d'après le comité local de résistance, les FSR ont tué au moins 45 civils. Et au Soudan du Sud, c'est par crainte d'un conflit à grande échelle que l'Allemagne annonce fermer provisoirement son ambassade à Djouba. La chef de la diplomatie allemande estime que le pays est à nouveau, je cite, au bord de la guerre civile. Ces dernières semaines, des combats ont eu lieu, notamment autour de la ville de Nassir, près de la frontière avec l'Éthiopie. Combat entre l'armée sud-soudanaise et une milice, la White Army, présentée comme proche du vice-président et opposant Riek Machar. Dans l'actualité des pays africains ce matin également, le Niger et un nouveau sabotage avant-hier soir qui a visé le pipeline, celui qui exporte le pétrole brut du Niger vers le port de Cotonou, une infrastructure qui est régulièrement prise pour cible par les membres des groupes armés. Avant-hier donc, l'attaque a eu lieu près du village de Mounseka, près de la frontière avec le Nigeria, sans que l'on sache ce matin qui en est l'auteur.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Et c'est un classement qui est dominé sur le continent africain par l'île Maurice, la Libye et l'Algérie. Classement des pays les plus heureux, dont les habitants sont les plus heureux. Classement établi chaque année par l'Université d'Oxford au Royaume-Uni. Et en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire qui est en tête, portée notamment par des bons scores en matière de générosité et de perception de la corruption. Alors, quelles sont les clés du bonheur des Ivoiriens? Reportage de Benoît Almeras.
Pour cette commerçante, être heureuse, c'est être en couple.
C'est vous qui allez me rendre heureux parce que je suis célibataire.
Donc si je dois dire, c'est l'amour qui vous rend heureuse.
Mais si, c'est l'amour et c'est ton amour là que je veux.
Il y a ceux qui cherchent le bonheur spirituel.
Ce qui me rend heureux d'abord, c'est ma foi religieuse.
Sans oublier le matériel.
Et en second plan, il y a mon activité aussi qui me rend heureux.
Quand tu luttes et puis tu gagnes un peu quand même. C'est pas qu'on gagne gros, mais c'est un peu comme si tu as une petite récompense.
Et il y a la famille pour Gertrude.
Ce qui me rend heureux, c'est le temps que je passe avec mes enfants, avec mes proches.
Sans oublier la santé, le foot et la fête, Zié Ouattara est sociologue à l'université de Boaké. Le chercheur planche en ce moment sur un indice ivoirien du bien-être. Dans ses enquêtes, la solidarité occupe une place importante.
Ce qui est ressorti, c'est le fait de se sentir vraiment utile dans sa communauté. Savoir que je peux rendre service à mon voisin, on peut même s'emprunter des choses. C'est des éléments comme ça qui sont très structurants dans l'approche du bien-être au niveau des communautés.
Et en plus du vivre ensemble, le chercheur a identifié une douzaine de dimensions du bien-être. Prendre soin de ses proches est un moteur du bonheur. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Benoît Almeras qui parlait du football comme moteur du bonheur des Ivoiriens. Journal des sports dans une minute avec Antoine Grenier. On parlera justement de football. Mais avant cela, avant de retrouver Julien Coquel-Rouem et la suite d'RFI Matin, direction la Tunisie au cinéma avec Aïcha, le dernier film de Mehdi Barsaoui. Portrait d'une jeune Tunisienne qui, après un accident, saisit l'occasion d'une seconde vie. Elisabeth Le Quéré l'a vu pour nous.
Jusqu'où peut-on aller pour conquérir sa liberté ? Employée dans un hôtel, Aïa travaille comme une bête de somme pour payer les dettes de sa famille qui veut lui faire épouser un riche divorcé. Seule survivante d'un accident de bus, elle saisit l'opportunité pour disparaître et se réinvente une nouvelle vie à Tunis sous un faux nom. Mais il suffit qu'un soir, un homme la reconnaisse en boîte de nuit et voilà Aïa piégée face à d'autres formes d'oppression, de chantage et de corruption policière. Aïcha pose la question du courage, de la résilience et du désir d'indépendance d'une jeune femme, telle que le patriarcat s'acharne à les décourager. Avec ce nouveau long métrage, Mehdi Barsaoui dessine un portrait au scalpel de la société tunisienne en lui donnant la forme séduisante d'un thriller. Sans doute, le film se repose-t-il un peu trop sur la performance magnétique et le charisme de son actrice, Fatma Sfar, mais sa force n'en demeure pas moins réelle.
Elisabeth Le Quéré à Tunis, il est maintenant 8h42.